En tout cas, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'EIG. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent de temps en temps de passage et ça fait plaisir de vous voir ici. Vous êtes la bienvenue ici à l'Église du Seigneur, bien sûr. Bienvenue à ceux qui nous suivent aussi sur YouTube en direct. Vous êtes la bienvenue, comme ceux qui sont présents ici. Et j'ai vraiment voulu faire un thème sur Barnabas aujourd'hui, vraiment, prêcher sur un thème thématique. Et on a voulu, comme Franck et moi, on a décidé de vouloir de changer de saison, à l'image du printemps. Ces beaux temps, ces beaux jours qui s'allongent, ces beaux jours florissantes, verdoyantes, c'est un véritable cadeau de Dieu. Mais je ne sais pas si aujourd'hui ça va être vraiment un cadeau, parce que je ne vais pas prêcher de manière textuelle suivie, comme on le fait d'habitude, comme Franck le fait sur la série « Mieux qu'une série Netflix ». Cette fois, je vais m'exercer à un style de prédication qui n'est pas recommandé, mais qui est aussi très enrichissant. C'est la prédication thématique. Et je peux l'appeler ça comme une édition limitée que je vais vous faire aujourd'hui. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui est centré sur un homme que vous connaissez, qui est Barnabas, dont la vie mérite qu'on se penche plus près. C'est un homme qui est discret, qu'on voit dans le livre des Actes, mais très fructueux. Un homme simple, un homme rempli de foi et d'esprit. Un homme qui, à sa manière, a profondément marqué l'histoire de l'Église primitive. Celui qu'on nomme le fils de l'encouragement, il s'agit de Barnabas. Et dans un monde où qu'on vit aujourd'hui, ou que souvent, ce sont des intérêts personnels et la compétition autour de nous, eh bien Barnabas a beaucoup à nous apprendre pour notre vie, dans une application concrète, un exemple à retenir, à prendre, dans la foi, dans la générosité, dans son soutien spirituel pour nous aujourd'hui. Et pour cela, il faut que d'abord on sache qui est Barnabas, qui est ce personnage? Et ça ne marche pas, mon PowerPoint. Ah, ça y est. La première fois qu'on trouve le nom de Barnabas se trouve dans le livre des Actes. Probablement, Franck a dû passer sur Barnabas. Vous avez dû entendre déjà par Barnabas. Mais là, on va rester vraiment focalisé sur Barnabas. Et dans Actes 4, verset 36... Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », Lévite, originaire de Chypre, dans ce verset, on apprend beaucoup de choses, plusieurs choses intéressantes sur l'aspect et la vie de Barnabas. Notamment, nous allons apprendre ses origines ethniques, religieuses et géographiques. Il est important de savoir ses origines pour comprendre quel est le parcours de Barnabas. Barnabas était un lévite, c'est-à-dire au service de Dieu, consacré au service du sanctuaire. Il assistait les prêtres, selon la loi mosaïque, aux œuvres. En tant que lévite, il connaissait bien la loi et les Écritures. Barnabas avait donc une solide formation spirituelle depuis son enfance et aussi un cœur dédié à Dieu. Il est aussi originaire de Chypre, cette île qui se situe près de la Grèce, joue un rôle clé, majeur, dans la diffusion de l'Évangile, notamment après la dispersion des Juifs, après la persécution des Juifs à Jérusalem, après la mort d'Étienne. Barnabas a pu probablement se convertir à ce moment-là. Quand les Juifs sont arrivés à Chypre, les Juifs ont prêché l'Évangile aux Juifs. Et probablement, Barnabas a dû être au contact de l'Évangile. Et à ce moment-là, peut-être donner sa vie au Seigneur. Mais Barnabas aussi a pu probablement aussi participer à l'annonce de l'Évangile aux non-juifs. Luc, il précise dans Actes 11 que certains juifs venus de Chypre, de Cyrène, venaient annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, cette fois-ci, aux non-juifs. C'est une ville stratégique, Antioche. Il est venu à Antioche. C'est l'une des trois plus grandes villes de l'Empire romain. Vous rendez-vous compte? Plus, il y a eu Rome, premièrement, et Alexandrie. Et après, Antioche. Donc, c'est un lieu stratégique pour l'annonce de l'Évangile. et Barnabas est venu à Antioche pour annoncer l'évangile aux non-croyants. Par son engagement et son expérience de sa vie que nous venons de voir, elle va marquer la vie de son ministère par ses compétences reconnues. Il était un faiseur de disciples. Dans Actes chapitre 11, versets 22-23, la nouvelle parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie et il encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Quand l'église de Jérusalem apprend le réveil spirituel de ce qui se passe à Antioche, les responsables n'envoient pas un novice. L'église envoie leur meilleur élément, Barnabas. Mûr, fiable, reconnu par tous, il était qualifié par Dieu pour accompagner ses nouveaux croyants. Barnabas était un vrai faiseur de disciples. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il l'encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Cet épisode nous montre à la fois le don de Barnabas en tant que faiseur de disciples, mais aussi il enracine la foi des disciples. Il encourage, il exhorte les disciples à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. On reconnaît souvent un don à la joie quand nous l'exerçons. C'est là qu'on voit si nous avons ce don. Si nous faisons quelque chose et que nous ne sommes pas joyeux dans ce que nous faisons, ce n'est peut-être pas forcément un don. Mais voir quelqu'un exercer son ministère ou une tâche avec le sourire et la joie, c'est un don donné de Dieu, un cadeau de Dieu. Alors faire des disciples, c'est la tâche principale de l'Église. Tout ce que nous apprenons, ce que nous entreprenons, lorsque l'Église est rassemblée, vise un seul et même but, édifier, affermir, équiper les disciples en vue du service. Si Barnabas était un faiseur de disciples, reconnu par tous, il était aussi forcément un mentor. Il avait aussi la capacité, une capacité de déceler les gens doués, les futures grosses pointures, en étant un mentor, en prenant des initiatives. Et voici l'exemple dans Actes, chapitre 11, versets 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il le trouvait, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Barnabas n'a pas simplement envoyé une petite lettre à Saul pour lui dire « Viens Antioche, viens avec moi, est-ce que tu es disponible ?» Non, il est allé le chercher lui-même, à Tarse. Il a pris des initiatives de leader, de mentor. Et Saul, pourquoi il s'est trouvé à Tarse à ce moment-là ? Parce qu'à ce moment-là, Saul était persécuté à Jérusalem. Il a dû rejoindre Tarse, car on cherchait à le tuer à Jérusalem. Connaissant le potentiel de Saul, Barnabas ne veut pas le laisser de côté. « Ah non, je ne veux pas laisser un élément comme ça !» Il l'emmène avec lui, déterminé à l'impliquer dans ce que Dieu fait à Antioche. C'est l'attitude d'un vrai mentor. Un vrai mentor, il repère, il agit et il entraîne. Qu'est-ce qu'un mentor dans sa définition ? Le terme « mentor » n'apparaît pas dans la Bible, mais le concept est très très présent. Il désigne une personne qui a de l'expérience, qui guide, qui conseille, qui soutient une autre personne, qui est appelée le mentoré. Le mentor partage ses expériences, ses connaissances, son expertise pour aider le mentoré à progresser dans un domaine particulier. Et ici, Barnabas avait pour but de propulser Paul, qui est Saul. Il va donc tout faire pour affermir ses convictions. Et par la suite, il fera tout pour l'envoyer, petit à petit. C'est le rôle d'un mentor. Barnabas a formé Saul en lui donnant l'opportunité de participer aux réunions des anciens. et d'enseigner. Vous voyez comment il en a pris soin. Luc dit qu'il enseigne. Ce n'est pas simplement Barnabas qui enseignait, Saul aussi. Et quand je lis ce passage, je suis tellement touché, je me reconnais dans cette histoire. Parce que je pense à mon Barnabas du 21e siècle, qui est mon formateur, Frank Segone. C'est lui mon Barnabas du 21e siècle. Et on va le voir là, en mission, pour l'évangélisation. L'application est là, avec la potion magique, qui est l'évangile. Barnabas était un évangéliste hors pair, inévitablement hors pair. Barnabas a joué un rôle clé dans l'annonce de l'évangile et l'extension de l'église primitive au-delà de Jérusalem et au-delà d'Antioche, en contribuant au lancement du ministère de Paul, la pointure du Nouveau Testament. Vous voyez, il est caché derrière dans l'ombre de Paul, mais pourtant, il donne une chance à Paul. Et nous, c'est ce qu'on doit faire dans l'église. Si nous repérons un jeune qui a du potentiel, nous devons le saisir, l'accompagner, le former. À quoi bon avoir toutes ces connaissances si nous ne pouvons pas transmettre ces connaissances? Comment pouvons-nous édifier le corps de Christ si c'est tout simplement une connaissance personnelle? Oui, je connais toutes ces choses-là. Et à la fin, comme la nourriture, à force d'en manger, on s'engraisse, on devient gras. Mais non, la nourriture spirituelle est faite pour mettre en pratique dans notre vie quotidienne, en action. Et voilà, voilà la joie, voilà les fruits d'un évangéliste. On ne peut pas lui retirer ça. Et je me rappelle d'une conversation avec Franck, on parlait des dons d'un évangéliste. Et Franck m'a cité cette phrase de Raphaël Eisenberger qui m'a beaucoup touché. Parce que je me sens un peu aussi très attiré par mon peuple pour annoncer l'évangile. Et je me suis dit, comment je vais concilier ce ministère de berger et aussi ce ministère d'évangéliste? Et là, Franck me sort ça. Le meilleur moyen de paralyser un évangéliste, gagneur d'âme, c'est de lui donner plein de choses à faire dans l'église, y compris l'animation de la commission d'évangélisation. Double faute. D'un côté, vous avez retiré du terrain à votre meilleur agent. De l'autre, vous lui confiez une charge qui n'est pas dans son champ de compétences. Au final, une commission en panne et un évangéliste complètement frustré. Bien que Barnabas soit compétent, il avait aussi des qualités spirituelles qui ressortent. Regardons quelques-unes. C'était un homme encourageant, toujours prêt à encourager. Le premier caractéristique qui ressort de la vie de Barnabas, c'est son encouragement. Déjà, c'est le surnom qu'on lui donnait. Les frères de l'Église lui donnaient ce nom. Dans Actes chapitre 4, verset 36, Luc dit que le nom de Barnabas avait précisément une signification. Fils d'encouragement. Ou fils d'exhortation, ou fils de consolation. Notamment lorsqu'il est à Jérusalem, où il joue un rôle de soutien, et bien sûr à Antioche aussi, en tant que responsable probablement, où il sera principalement la cheville ouvrière pour édifier les jeunes convertis. Luc dit dans Actes 13, verset 1, il dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, premier listé ici, et Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaé, et qui avait élevé Hérode, le Tartre, et Saul. » Luc le mentionne parmi les prophètes et enseignants d'Antioche. Donc, pour dire qu'il était un élément clé, essentiel pour l'église d'Antioche, mais aussi pour l'église mère de Jérusalem. Il était un homme généreux. Dans Actes, chapitre 4, verset 36-37, il dit « Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Barnabas devint célèbre à ce moment-là. On le voit dans le chapitre 4, dans le livre des Actes. « Où il vient, il vend un champ, avec générosité, il dépose ça aux pieds des apôtres. » Il a été reconnu pour sa générosité et son travail missionnaire. Savez-vous que ce qu'il a vendu là, c'était tout ce qu'il avait? S'étant dépouillé de ses biens pour le bien de l'Église, Barnabas a vendu son champ pour donner l'argent aux apôtres. Voyez quel geste! Vendons-nous notre champ, vendons-nous notre demeure pour l'édification de l'Église. C'est un acte quand même à prendre en considération, important, sacrificiel. Par la suite, il vivait probablement par ses mains, en faisant du travail, par-ci, par-là, et aussi par quelques soutiens de dons par l'Église de Jérusalem. Donc Barnabas était un homme généreux, en vendant sa seule richesse qui lui restait pour l'Église. Et c'est un peu comme Dieu, ce qu'il a fait. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » L'amour de Dieu se manifeste par un don. Le plus grand que Dieu a donné, c'est Jésus pour nous, le Christ. L'amour doit nous pousser à donner. La générosité, c'est donner volontairement à quelqu'un d'autre. C'est un acte d'amour. Que ce soit du temps, de l'attention, de l'argent, des ressources, mais sans rien attendre en retour. C'est ça, donner avec amour. Et c'est exactement encore ce que fait Barnabas ici. Cela montre que Barnabas était un homme très, très généreux envers les autres, mais qu'il était également un homme humble de cœur. 3 ans après sa conversion, Paul se rendit à Jérusalem, chez Pierre. Mais les Juifs convertis de la ville se méfie de lui. On le voit dans Actes 9, versets 26-27. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Les disciples juifs, nouvellement reconvertis, ne croyaient pas à l'arrivée du changement de Saul. Ils avaient peur. Son séjour en Arabie, à Damas, ce qu'il a fait, ses actions, il a prêché, on le voit. Mais elles sont trop récentes pour que les nouvelles viennent jusqu'à Jérusalem. Pour qu'ils puissent, les disciples puissent entendre le changement radical de Saul. Et ça, je peux l'illustrer facilement. C'est une triste réalité dans l'Église. Parfois, il y a des nouveaux convertis qui viennent, qui ont un passé lourd, une mauvaise réputation. Et pourtant, on est réticent envers eux. Il y a un peu une forme de rejet. Ah, c'était un criminel. Ou, oh, il a fait de la prison. Ou, oh, c'était un voleur, un bandit. Un genre de mauvaise vie. Et on a tendance à s'éloigner de ce genre de personnes. Et même un nouveau converti qui vient en apprenant son passé, on est réticent. Nous devons avoir plus d'amour, mes frères et sœurs, pour notre prochain, notre frère. De plus, Paul lui-même témoigne qu'il était inconnu du visage des églises de Judée, dans Galates 1. C'est alors qu'intervient Barnabas, notre personnage, humble de cœur, ce frère. Il prend Paul sous ses ailes. Il n'attend pas qu'on lui dise quelque chose. Il vient de lui-même, le prend, vient devant les apôtres, et il présente devant les apôtres Saul. Il témoigne positivement de tout ce qu'il a fait. Barnabas n'était pas obligé de le faire, ça c'est sûr. Mais son but n'était pas de briller personnellement, mais de faire briller les autres. Cela met en lumière son grand humilité de cœur. Et parfois, nous avons des mauvais motifs, Nous voulons faire des choses pour dire oui, c'est moi qui ai pris l'initiative, c'est moi. Non, Barnabas a dit je le mets en avant, moi, je suis en retrait. Un homme rempli d'humilité doit ressembler inévitablement à notre Seigneur Jésus. Il portera des fruits de douceur, de service, de sagesse, de paix, de patience et d'amour. Il est petit dans le monde, devant les hommes, mais il est grand dans le royaume. Il sert sans chercher à être reconnu ou avoir de la reconnaissance. Il élève les autres sans chercher à se mettre en avant. Et c'est tout ce que Barnabas a fait ici, en prenant la défense de Paul, en témoignant de la foi de Paul. Donc les fruits manifestés dans la vie de Barnabas nous amènent à un même constat que Luc. Il reconnaît que Barnabas était un homme bon. Dans Actes, chapitre 11, verset 24, « Car c'était un homme de bien, plein d'esprit, plein de Saint-Esprit et de foi. » Alors je vais vous donner la définition. C'est quoi un homme bon ? Un homme bon est une personne au cœur doux et bienveillant, animé par la compassion. Il agit avec intégrité, honnêteté, justice, cherchant le bien des autres, sans égoïsme. C'est une personne fiable et encourageante. Il soutient et élève les autres plutôt que de critiquer ou de les juger. Chose plus facile à faire, de critiquer, mais à faire, c'est plus compliqué. C'est quoi un homme rempli du Saint-Esprit ? Un homme rempli du Saint-Esprit est quelqu'un qui fait pleinement confiance à Dieu dans sa vie, même sans voir immédiatement les réponses ou voir les œuvres de grâce de Dieu. Il croit en l'action de Dieu dans chaque situation de sa vie, qu'elle soit grande ou petite. Il ose prendre des risques pour sa foi, sortir de sa zone de confort pour aller au front, comme Barnabas l'a fait, en soutenant Paul, malgré les doutes et le regard des autres disciples ou le regard des autres. Sa foi est vivante, est inspirante. Elle l'encourage et fortifie tous ceux qui l'entourent. C'est quoi un homme de foi ? Un homme de foi est quelqu'un dont la vie est dirigée par Dieu. Dieu contrôle, Dieu conduit sa vie, plutôt que d'être conduit par ses émotions, par notre ego, nos intérêts. Il reflète le fruit de l'esprit qu'on voit dans Galates 5. Et il discerne bien la grâce de Dieu chez les autres. Humble, fidèle et disponible, il se laisse guider par le Saint-Esprit pour servir les autres, permettant à Dieu d'agir puissamment à travers lui. C'est dans un cœur humble, dans une foi humble, que Dieu va pouvoir nous utiliser. Voilà ce qu'incarne Barnabas d'être un homme de bien, rempli du Saint-Esprit et de foi. Dieu veut faire la même chose avec toi, avec moi. Il veut former ce genre de disciples-là. Il veut développer en chacun de nous un cœur bon, une vie remplie du Saint-Esprit, une foi authentique. C'est ce qu'il cherche à former en toi, en moi. Et il le fait de mille manières, tout en nous pardonnant, tout en nous relevant dans notre incrédulité. Un autre caractéristique qui sort de la vie de Barnabas, c'est aussi son côté conciliant. C'était un homme conciliant. Barnabas était un humain, ça c'est sûr, comme nous tous ici. Il avait des conflits à cause des différences perspectives, d'éducation, d'expérience professionnelle, d'expérience de vie, des méthodes différentes, une personnalité différente. Avoir un conflit avec quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais la manière dont nous gérons le conflit nous conduit au péché ou pas. C'est dans la manière dont nous gérons ce conflit que si nous péchions ou pas. Cela dit, si nous sommes par contre toujours en conflit, alors il faut se poser les bonnes questions. Il est fort probable que ce conflit, ce problème vient de nous-mêmes, de l'humilité encore une fois. Il est important de savoir s'examiner. Et la parole, là-dessus, il le dit clairement. Paul et Barnabas, on va le voir dans Actes 15, étaient en tension au sujet de Jean-Marc. On va le lire. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et nos sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Donc il y a eu un désaccord vif. C'est humain. Dans la lettre de Colossiens, Paul il donne aussi une petite indication. Qui est Jean-Marc, ou Marc ici. Il dit dans Colossiens, chapitre 4, verset 10, Paul révèle que Jean-Marc était le cousin de Barnabas. C'était de la famille. Jean-Marc avait accompagné Barnabas et Paul lors de leur premier voyage missionnaire, dans Acte 13. Mais, au cours de route, il retourne à Jérusalem. Et Paul, là, il s'est dit, oh, quel lâche. Il nous lâche. Et lors du second voyage missionnaire, là, Paul dit à Barnabas, bah viens, on retourne repartir voir nos églises d'implantation qu'on a implantées et nos frères. Et là, Barnabas, il dit, bah non, je vais prendre mon cousin avec moi. Et Paul, tout de suite, forcément, bah, il veut pas, quoi. Cependant, malgré cette dispute, malgré cette tension, Dieu est toujours au contrôle. Ça, c'est rassurant. Par la grâce de Dieu, ce conflit n'a pas freiné l'œuvre de Dieu. En effet, plusieurs années plus tard, vous allez voir que dans mes lettres de nouvelles, je vais mentionner l'EIG. Mais pas seulement, Paul aussi mentionne Jean-Marc dans ses lettres, montrant qu'il a regagné la confiance de Paul. Voyez les versets que je vais vous donner. Colossiens, chapitre 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Philémon, chapitre 1, verset 23-24. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque. Démas et Luc, mes collaborateurs. Dans 2 Timothée 4, verset 1, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Quelle réconciliation! Ils ont travaillé par la suite ensemble. Donc Barnabas, ce qu'il a fait, n'a pas été sans fruit, surtout pas. Il a porté du fruit. Dieu peut utiliser des circonstances compliquées comme celle-ci pour faire grandir son royaume. Et parfois, on voit ça très négativement, et c'est sûr, humainement, c'est compliqué de voir ça. On ne veut pas être en tension, mais parfois, il faut que des leaders, soient envoyés. Moi, je prends l'exemple de notre église d'envoi, qui est l'église du Cellier. C'est une église qui a à peu près 25 ans. C'est une église qui marche bien, qui tourne bien, qui... Pas de soucis, il y a la joie, il y a tout ce qu'il faut. Leader responsable, il y a tout ce qu'il faut. Dans chaque poste, on en crée tellement des postes de responsables. Mais quand il s'agit d'aller soutenir une église à 40 minutes, eh ben, il n'y a personne. Comment peut-on rester tous des responsables, des gens bien formés ensemble et ne pas pouvoir aller aider les autres? Il y a forcément un problème. Et il y aura à un moment donné des tensions. Dieu va dire, allez, vous ne voulez pas bouger, il va y avoir des tensions là. Et c'est dans les tensions que là, les gens vont partir. C'est triste, mais à un moment donné, quand on reste dans le confort, eh ben, on tombe dans le confort. J'ai une image. J'ai vu une image hier sur Internet, une souris dans un verre. Si la souris, elle sait qu'elle est bien là pour manger, elle a tout ce qu'il faut, eh ben, on va manger, manger, manger. Mais elle va rester bloquée dans le verre quand il n'y aura plus de riz. Eh ben, nous aussi, dans notre vie d'église, en tant que disciples, nous ne pouvons pas nous contenter de rester dans notre bol à manger du riz. Parce qu'à un moment donné, on va tomber, on va être coincé, on ne pourra plus sortir. Mais Dieu va éclater ça. Et ça va faire mal, des fois. Donc, formons et envoyons. Barnabas a pris Jean et ça a porté du fruit. Pas simplement la réconciliation. Mais on voit que Jean-Marc était l'auteur du quatrième évangile. Ainsi que Paul lui forma des milliers et des milliers de croyants, de disciples. Et ça sera un instrument de choix dans les mains de Dieu pour l'implantation de dizaines et de milliers d'églises. Donc si je devais définir ce conflit entre Paul et Barnabas, c'est un conflit d'attente, tout simplement. Barnabas est un donneur de chance, comme pour son cousin. C'est un type de leader. Et Paul, lui, différent, il dit, ceux qui ne font pas l'affaire, blacklistés. Je ne les prends plus dans la mission avec moi. Donc, il y a deux caractères. Mais pourtant, l'un et l'autre n'est pas négatif et peut apporter du fruit. Et dans chaque culture que nous pouvons voir ici à l'EIG, nous sommes une église multiculturelle, nous avons tous une compréhension de la loyauté, du leadership, de l'autorité, de l'éducation, la gestion du temps qui est différente. Cette différence peut entraîner des défis dans l'Église et des frustrations, voire même jusqu'au conflit, si nous ne prêtons pas attention. Alors Barnabas a probablement laissé à ce moment-là ses émotions penchées sur ses liens familiaux. Il a choisi son cousin en lui donnant une seconde chance. Il le prit et partir pour Chypre, pour fortifier aussi les églises d'implantation sur place. Barnabas était aussi un pasteur et un évangéliste. Il était un homme persévérant. Il a persévéré, Barnabas. Barnabas et Paul prêchèrent à Iconium durant leur premier voyage missionnaire. Leur message attire à la fois des gens qui croient et des opposants. Dans Actes, chapitre 14, versets 1 à 3, versets 6 à 7, à Iconium, Paul et Barnabas entrèrent dans les synagogues des Juifs et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande foule de Juifs et non-Juifs crurent. Mais les Juifs restèrent incrédules, excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre eux, leurs frères, les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'ils se fassent par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. On voit bien que l'oppression est grandissante, que le message de l'Évangile dérange. La situation devenait dangereuse pour Paul, pour Barnabas, face aux opposants. Il crée une rébellion. Et donc, il doit fuir dans les villes voisines. Mais ce qui est remarquable, encore ici, c'est que Paul et Barnabas n'ont pas dit « Oh, si on sort, on va se faire lapider » ou « On a peur, on ne sort plus ». Non, ils ont continué. Leur élan n'a pas été freiné. Ils continuent à prêcher avec assurance parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, leur avait donné les capacités, la force. Et je prends l'exemple, ici, dans le contexte de l'EEG, on parlait à un moment dans un groupe d'anciens que ah, c'est dommage qu'on ne peut plus baptiser dans le lac de l'Aimant. Et c'est vrai, c'est triste. Mais je me dis, je me mets à la place de Paul et Barnabas, je me dis, qu'est-ce qu'ils auront fait eux, dans cette situation? Eh bien, c'est très simple ce qu'ils auront fait. On va dans l'eau du Rhône. On va baptiser dans le Rhône pour continuer à être un témoignage. Voilà ce qu'ils auront fait. Ils ont pris des risques, ils prendront des risques. Si ce n'est pas dans le lac, ça sera dans le Rhône. Si ce n'est pas dans le Rhône, ça sera dans l'Arve. Et si ce n'est pas dans l'Arve, ça sera dans une autre rivière. Parce que nous voulons baptisés pour témoigner l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du Christ, qu'il est vivant. Et dans l'église Mong, au Sud-Est, où est-ce que je viens avec mon épouse, chaque année, nous baptisons dans la Loire. Juste au pied de l'église, en bas, il y a la Loire qui passe. Et on baptise chaque année là. On ne sait même pas si les autorités veulent ou pas. On vient, on est des baigneurs. Non, on n'est pas des baigneurs, on vient baptiser. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand nous baptisons comme ça, en public? Les gens, ils viennent. Oh, ça existe encore les baptêmes? Ça se fait encore? Oh, regardez, ils baptisent. Oui, monsieur. Oui, madame. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Amen. Nous serons confrontés à ça par plusieurs formes de persécution, comme pour l'image du baptême dans le lac. Interdiction des cultes en plein air. Interdiction du baptême dans les lieux publics. Interdiction d'annoncer l'évangile aussi dans les lieux publics, ou même dans certaines villes, certains pays du monde. Même la construction de lieux de culte. Et nous sommes regardés premièrement par le regard des autres. Et je pourrais en lister des milliers de choses. Le ministère pastoral et d'évangélistes, il faut se rappeler, et d'anciens, ce sont eux qui sont en première ligne. À la fois, pourquoi? Parce qu'ils seront devant Dieu. Ils devront rendre compte des comptes à Dieu, mais aussi devant les hommes. Leur appel est noble, mais exigeante. De plus, ce seront des cibles privilégiées du diable et du monde. On veut couper la tête. À la guillotine! C'est plus simple de couper la tête, parce que tout le reste, après, tombe. Et en tant que responsable, il faut savoir que les pasteurs, les anciens, les évangélistes sont tous les jours, en premier front. Priez pour votre pasteur. Ayez de l'amour pour votre pasteur, pour votre berger. Sans la tête, le corps tombe. Priez pour vos anciens, qu'ils aient la sagesse de persévérer quand les autorités les persécuteront. Oui. Être en première ligne, c'est ce que je disais, c'est de porter une charge spirituelle, émotionnelle, morale, mais aussi, gloire à Dieu, parce qu'ils marchent avec une grâce spéciale que Dieu leur accorde. Pour conclure, que pouvons-nous en tirer de l'étude de Barnabas dans nos vies? Application concrète. Barnabas est un modèle de foi. Ce qui l'animait ne venait pas de lui, ça c'est sûr, mais par l'Esprit du Seigneur. Barnabas a rencontré Jésus d'une façon personnelle à Chypre et a profondément changé sa vie. Et même s'il ne l'a pas vu physiquement, Jésus, il a entendu et il a cru de tout son cœur à l'Évangile. Que Jésus est mort pour ses péchés et ressuscité pour lui donner la vie éternelle. Cette foi a complètement redonné un sens nouveau dans sa vie. Et j'en peux témoigner encore une fois de cela. Venir à Christ, c'est d'être nouveau, prendre une nouvelle direction. Et je le dirai tout le jour, tout le temps. C'est un chemin, comme on dit, c'est un retour 360. 180 ou 360, peu importe. En tout cas, on marchait là, et avec le Seigneur, on va marcher là. C'est complètement nouveau. 360, c'est beaucoup peut-être. Hein. Ça revient au même chemin, excusez-moi. Il a vraiment fait demi-tour. À ce moment-là, Barnabas, choisissant de marcher avec Dieu. Car Dieu est un Dieu bon qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Et cette même foi est accessible à toi aujourd'hui. Si tu n'as pas encore compris la grâce et l'amour de Dieu, tu peux t'approcher avec la foi. Si tu décides aujourd'hui de croire au Fils unique de Dieu, en Jésus. Barnabas était un modèle de zèle. Personne ne peut vivre avec autant de sacrifice et d'humilité s'il n'est pas poussé par une passion pour Jésus. Barnabas était amoureux de son Seigneur. Il était heureux lorsque son maître était heureux. Il se réjouissait de voir l'œuvre de Dieu grandir, de voir les autres le devancer et de prendre leur envol. Quelle humilité exemplaire! En voyant l'exemple de Barnabas, je me suis posé ces questions. Es-tu heureux, toi aussi, de voir la grâce de Dieu dans ta vie? Es-tu heureux de voir d'autres aussi diriger à ta place? Éprouves-tu de la joie lorsqu'une personne perdue est réconciliée à Dieu? Moi, je donne l'exemple de mon beau-père. Il ne m'a pas lâché au début de ma conversion. Je me disais, il est fou ce pasteur. Il est fou, il me dit de venir là, il me baptise tout de suite, il me dit tout de suite. J'ai dit, je ne suis pas prêt, je ne comprends rien encore, je n'ai jamais lu la Bible, je sais que le Seigneur, il est vivant, il est puissant, mais je ne suis pas prêt. Il m'a tellement poussé. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que Dieu l'a utilisé. Et aujourd'hui, je suis là à exercer la même fonction que lui, la passion de Christ. Et je le vois toujours dans ses appels, quand il appelle, il dit, oh, t'as qui? Ah, c'est mon gendre, hein, il fait des études en théologie, il est voilà, stagiaire pasteur, il est fier. Je vois ses petits trucs, tu vois, je dis, oh, t'es pas obligé de le dire, mais il aime bien, voilà, parce que c'est un peu ça, le mentor et le mentoré. Quand tu prends soin, t'es fier quand il s'élève, et que tu vois la grâce de Dieu venir et le pousser, mais c'est une joie ça. C'est une joie immense. Et je prie que vous connaissiez ça, que vous vivez cette expérience dans votre vie. En tant que chrétien, en tant que disciple, vous devez le vivre une fois avant de mourir. Ça serait idéal. Barnabas était aussi un modèle de disponibilité. Barnabas était digne de confiance. Celui qui est appelé à se consacrer au ministère, celui qui est vraiment appelé ou consacré au ministère doit être un homme digne ou une femme digne de confiance. Il doit être approuvé, reconnu, envoyé par les membres et les anciens de l'Église. Et quand je suis venu me former à l'IBG, j'ai dû faire une candidature. Et cette candidature-là, elle m'a poussé à avoir 3 recommandations. Mon pasteur, le président de l'Union d'Église, et un frère de confiance. 3 témoignages pour pouvoir être envoyé. Je n'ai pas décidé d'aller comme ça. Et ce n'est pas moi qui a voulu aller me former. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé. Et je sais que c'est l'Église, l'autorité de l'Église, les anciens, le pasteur qui m'a validé les fruits. Donc on ne s'autoproclame pas. Allez nous-mêmes. Et c'est ça la confiance qu'on doit développer. Apprenons-nous à nous décentrer de nous-mêmes pour ne pas être incrédules, mais rester centrés sur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, afin d'être digne de confiance devant Dieu avant tout, mais devant les hommes aussi. Alors j'aimerais te poser cette question ce matin. Te reste-t-il un peu de place dans l'œuvre de Dieu dans ta vie et pour ton prochain? Te reste-t-il un peu de place? Barnabas était un modèle de réactivité. Au travers de sa vie, on perçoit un homme d'action. Barnabas est un actif et non un passif. Sa passion pour Jésus le pousse à l'action. Elle le pousse à prêcher l'évangile, malgré l'opposition. Persévérance. Elle le pousse à former des disciples, l'amour, le mentorat. Elle le pousse à prendre des risques, la passion. Elle le pousse à quitter sa ville natale et donc sortir de sa zone de confort. Un disciple, faiseur de disciples. Chers frères et sœurs, si Jésus, dans les chants, les cantiques que nous chantons, que Dieu, Jésus est notre roi, notre maître, alors il doit être notre passion. Alors cela devra nous rendre proactifs, nous rendre actifs. Si notre foi ne nous pousse pas à l'action, alors peut-être que nous avons perdu quelque chose de précieux. Et cette chose, c'est notre premier amour pour Christ. Avons-nous perdu notre premier amour pour pour Christ. Et je veux finir par cela, en vous mettant un verset. Je laisse une minute de silence, que chacun lit le verset, médite dans son cœur devant le Seigneur, dans tous les aspects de sa vie. Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 5.